France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Je pense malheureusement qu'on n'est qu'au début d'une extrême violence de la part de la criminalité organisée. On regarde des profits considérables générés par ces gens. Il faut que l'on se protège davantage et qu'on travaille davantage ensemble, comme on l'a fait en matière de terrorisme.
Aujourd'hui, on a des organisations qui utilisent des moyens qui, historiquement, étaient un monopole de l'État. Et sur certains domaines, sur certains segments, ça devient un peu des compétiteurs en termes de capacité technique.
On sait les adversaires qu'on a en face. C'est des gens hyper puissants, qui ont des moyens considérables, ils sont hyper violents, donc je crie pas victoire.
Le trafic de stupéfiants explose à l'échelle mondiale. Selon un rapport de l'ONU, la Colombie, le Pérou et la Bolivie n'ont jamais autant produit de cocaïne. Et constatant la saturation du marché américain, très gros consommateur d'opioïdes, les organisations criminelles ont cherché d'autres débouchés. Elles en ont vite trouvé en Europe. En France, si le cannabis reste la drogue la plus consommée, on parle actuellement d'un tsunami blanc. L'année 2024 a été marquée par des saisies records de cocaïne, 53,5 tonnes, soit une augmentation de 130% sur un an. Et ce n'est bien sûr qu'une infime partie de ceux qui entrent sur le territoire. Le chiffre d'affaires du narcotrafic est estimé entre 3,5 milliards et 6 milliards d'euros. Un commerce très rentable qui se développe au détriment de vies humaines. Avant le consommateur mettant sa vie en danger, il y a les mules qui cachent des sachets de drogue dans leur corps. Ce sont parfois des enfants. Il y a les règlements de compte mortels. Là aussi, des mineurs sont impliqués. Et le recours des narcocriminels à l'ultraviolence fait de plus en plus de victimes. Le 14 mai 2024, une voiture bélier et des armes de guerre sont utilisées pour faire évader le narcotrafiquant Mohamed Amra au péage d'Incarville. Deux agents pénitentiaires sont abattus sans aucune nécessité. Cette évasion sanglante est un électrochoc. Depuis, le Parlement a étudié et adopté la proposition de loi pour sortir la France du piège du narcotrafic. Le Conseil constitutionnel doit rendre son avis sur ce texte la semaine prochaine. Les forces de l'ordre et la justice sont-elles désormais suffisamment armées face à une menace protéiforme et qui ne cesse de se renouveler ? Trafic de stupéfiants, la nouvelle donne, c'est un reportage signé Anne Fockenberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Ce reportage, vous l'avez conçu au fil du débat sur le narcotrafic dont vous abordez toutes les facettes.
Oui, l'idée de ce grand reportage, c'était de fabriquer une image sonore du narcotrafic, de l'arrivée des stupéfiants à la structuration des points de deal jusqu'à la lutte contre le blanchiment, en passant par les risques pour la jeunesse. Il fallait donc emmener les auditeurs dans les coulisses de ceux qui luttent au quotidien contre l'emprise de la drogue, douaniers, policiers, magistrats, éducateurs, ce qu'ils constatent de nouveau, ce qui les étonne, ce qu'ils attendent aussi de ce grand texte pour lutter contre le narcotrafic et comment ils voient l'avenir.
Deux invités sont en studio avec nous aujourd'hui, Dimitri Zoulas et Damien Brunet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Aurélie Kiefer.
Bonjour.
Dimitri Zoulas, vous êtes chef de l'office anti-stupéfiant, l'OFAST, qui coordonne la lutte anti-stupéfiant en France. Et Damien Brunet, vous êtes magistrat spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée au parquet général de Paris. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif « Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée » édité par LGDJ. Nous commençons par écouter ensemble le reportage d'Anne Fockenberg. Première étape de cette immersion dans le quotidien de la lutte contre les stupéfiants, les douanes.
Vous arrivez d'où, s'il vous plaît ?
On arrive de l'autre zone.
Et vous allez ?
Luxembourg.
Le motif du déplacement ?
Des pièces de camion.
Ok, vous avez de l'argent en liquide sur vous ?
Non.
Rien ? Non ? Oui, baissez la vitre, s'il vous plaît ?
Oui.
Ok. Ok, c'est bien, merci. Bonne route, au revoir.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez ciblé depuis ce matin sur le péage ?
Alors, en camion, c'était beaucoup de camions espagnols, mais du polonais et du roumain.
D'accord, ok. Et en termes de contrôle derrière, est-ce qu'il y a eu des contrôles qui ont été approfondis ou pas ?
Non, il n'y a pas de contrôle approfondi, non, pas nécessaire pour l'instant.
Je m'appelle Georges Dubois, je suis chef divisionnaire des douanes sur Nancy. Et donc, actuellement, donc, je suis avec la brigade de Nancy sur un point de contrôle au péage de J.
Pourquoi ce péage, il est important dans votre activité douanière ?
Alors ce péage de Gy, c'est un péage emblématique. C'est le péage où on fait le plus de constatations en matière douanière depuis des années. Donc en partant, on va dire, sur un schéma nord-sud, c'est le premier péage à partir de la frontière Luxembourg, voire Belgique. Et dans l'autre sens, en sud-nord, c'est le dernier péage avant la frontière. Donc effectivement, c'est un point de contrôle privilégié qui nous permet de faire une sélection plus facile des moyens de transport. En termes de stupéfiants, on est un peu sur une constante en termes, on va dire, si on parle du cannabis, où là on fait traditionnellement de grosses saisies, on va dire depuis une quinzaine d'années. Par contre, sur la cocaïne, effectivement, on a une augmentation très très significative. En 2025, on a fait une saisie d'une trentaine de kilos à hauteur du péage. Donc pour nous, c'est une saisie quand même exceptionnelle compte tenu des quantités et surtout compte tenu du sens de la constatation. On a fait une constatation en sens sud-nord alors que traditionnellement la cocaïne descend des pays, on va dire, du nord, essentiellement des Pays-Bas. Donc on est plutôt en nord-sud pour les saisies de cocaïne. Là, c'était une saisie en sens inverse.
Cette constatation, elle a eu lieu quand ? C'était donc dans un poids lourd ?
Alors, cette constatation n'était pas dans un poids lourd, c'était dans un véhicule, on va dire, un véhicule lambda. Hein. Donc, cette constatation a été faite de nuit, 4 heures du matin, en semaine. Heureusement qu'on avait des renseignements précis, parce que cette constatation était compliquée du fait de l'existence de plusieurs voitures ouvreuses. Donc, il faut savoir que sur ce type de trafic, compte tenu des enjeux et des sommes transportées, hein, parce que notre saisie, c'est plus de 2 millions d'euros. Hein, donc, effectivement, il y a des moyens mis à côté au niveau des trafiquants. Donc, on a dû effectivement adapter nos schémas de contrôle, repenser nos schémas de contrôle pour être beaucoup plus performants.
Merci. Le motif du voyage, s'il vous plaît. Professionnel, c'est une voiture de location.
Très bien.
Bonne journée à vous. Au revoir, monsieur.
Donc Sébastien Tirant, directeur de la DNRED, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
On était avec des agents de constatation des douanes dans le Grand Est sur l'autoroute A31, mais les principaux modes d'importation des stupéfiants, ça reste quand même le maritime. Quels sont les derniers phénomènes observés à ce niveau-là ?
Ça change en permanence. Donc, historiquement, quand même, il y a un vecteur qui est très dominant, c'est le conteneur maritime. Donc, l'arrivée de cocaïne, notamment de cocaïne, dans les principales plateformes portuaires européennes, Le Havre, Rotterdam, Anvers. Et puis, ça peut changer en fonction de la réponse des services répressifs, des services d'enquête, et elle s'adapte. Donc, le phénomène assez récent, qui a récemment défrayé la chronique d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le phénomène du drop-off. Donc, avec là un bateau qui est chargé, qui arrive d'Amérique du Sud notamment, qui va larguer des stupéfiants en mer, avec des moyens de géolocalisation sur les ballots de cocaïne, puisqu'il s'agit de cocaïne, et avec des bateaux qui partent depuis la côte, qui viennent récupérer la marchandise. Donc ça, c'est un des phénomènes les plus récents qu'on a détecté comme étant un des phénomènes visant à contourner l'augmentation de la pression de contrôle dans les ports. Mais même dans les ports, avant, la technique la plus dominante, c'était ce qu'on appelait la technique du rip-off. Vous ouvrez le conteneur, tout est là, dans des sacs de sport, et vous arrachez les produits. Et on voit là aussi que ça s'est beaucoup diversifié, beaucoup sophistiqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des organisations qui utilisent des moyens qui, historiquement, étaient un monopole de l'État. Désormais, la marchandise est quasi systématiquement géolocalisée. Alors, via ce qu'on appelle des AirTags, via des balises achetées en ligne, à bas prix d'ailleurs, alors qu'avant, la géolocalisation, c'était vraiment une prérogative des services d'enquête, des services de renseignement. Et là, on voit qu'on a des organisations qui ont accès à cette capacité pour leurs propres besoins. Autre exemple, il a fait l'objet de débats importants au moment de la discussion sur la proposition de loi narcotrafique, le recours systématique à des messageries chiffrées ou cryptées. Avant, pareil, les capacités de chiffrement, de cryptologie, c'était un monopole étatique qui aujourd'hui s'est diffusé et que les organisations criminelles utilisent désormais. Et sur certains domaines, sur certains segments, ça devient un peu des compétiteurs en termes de capacité technique. L'exemple peut-être le plus marquant en la matière, c'est ce qu'on appelle le phénomène des semi-submersibles, donc des espèces de sous-marins qui naviguent au ras de l'eau et qui ont la capacité désormais. Avant, on pensait que c'était un phénomène qui était limité à l'Amérique du Sud, la Caraïbe et surtout les transferts vers les États-Unis. Là, maintenant, on a plusieurs cas, notamment via nos homologues espagnols, de détection et même d'entraves, d'interception de semi-submersibles qui ont amené de la cocaïne en Europe depuis les côtes sud-américaines. Donc on a désormais des vecteurs qui sont capables de faire des transatlantiques, ce qui était encore inimaginable il y a 5-10 ans.
La loi pour sortir la France du piège du narcotrafic vient d'être votée il y a quelques semaines. C'est une loi que vous attendiez aux douanes ?
Alors, il y a plusieurs dispositions de la proposition de loi narcotrafic qui pourront représenter un apport ou un atout important pour un service comme la DNRED. D'un point de vue de notre activité de renseignement, il y a une technique qui s'appelle la technique de l'algorithme. Aujourd'hui, elle était cantonnée au sujet de la lutte antiterroriste. Et donc, la proposition de loi sur le narcotrafic porte le principe d'une extension dans le cadre d'une expérimentation sur laquelle il faudra venir ensuite rendre compte devant le Parlement cette technique dite de l'algorithme à la lutte contre le narcotrafic.
C'est quoi la technique de l'algorithme ?
Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Disons que c'est de travailler sur certains types de données qu'on peut collecter dans le cadre d'une activité de renseignement et à travers certains modèles, à travers certaines typologies de comportement de certains criminels, de certains narcotrafiquants, d'arriver à détecter, via le traitement de ce type de données, d'arriver à détecter, par exemple, sur certaines plateformes portuaires, par exemple, sur certaines plateformes aéroportuaires, certaines activités qui peuvent révéler une activité de narcotrafic. Voilà.
Pour lutter contre les arrivées de stupéfiants, les services de renseignement surveillent particulièrement l'outre-mer, les Antilles et la Guyane notamment, à proximité de l'Amérique du Sud. Ces territoires servent en effet de zone rebond pour les organisations criminelles. Ils nourrissent aussi un trafic de fourmis généré par des mules, des passeurs qui transportent de la cocaïne dans leurs bagages ou en ingérant des ovules. Des mules qui arrivent parfois jusqu'à Metz. Ces douaniers de la brigade ferroviaire de Metz, positionnés à la sortie du TGV venant de Paris, en ont interpellé 5 l'année dernière.
Les voyageurs, faut attendre un peu, hein, parce qu'ils sont assez méfiants et puis ils peuvent attendre que le flux de voyageurs passe pour eux passer en tranquillité. En fait, il y a des contrôles. Voilà, voilà.
Vous avez des copains qui fument du cannabis, peut-être des choses comme ça, parce que c'est ça qui change, hein, c'est... Machin stupéfiant. Bon, on jette un petit coup d'œil en vitesse, puis s'il n'y a rien. Vous faites quoi là? Vous rentrez des cours?
Je vais pas en cours.
Dans les poches, quand même, en fait. Juste le téléphone. C'est bon. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir.
Alors, pas de mule sur.
Bah non. Non. Même pas de profil intéressant. Hein.
Profil des mules. Comment reconnaît une mule?
Bah, c'est des gens qui, en règle générale, sont un peu perdus parce que, bon, ils arrivent pour livrer de la drogue, mais ils savent pas trop où aller.
Ils ont juste des contacts, des points de contact par téléphone. On dit, tu te rends là et on t'appelle. Donc ils arrivent là, admettons, et puis ils sont perdus, ils cherchent les panneaux, ils cherchent les mains. C'est souvent la première fois. Et là, nous, ça attire un peu l'œil du douanier, on va dire, la personne perdue dans la gare. Voilà.
Il n'y a pas des mules dans chaque train, quoi.
Il n'y en a pas dans chaque train. Par contre, bon, je peux pas le garantir, mais j'irai jusqu'à dire qu'il y en a dans chaque avion. Parce que c'est un trafic de fourmis. C'est pas des grosses quantités, hein, parce qu'on n'a jamais plus de 2 kilos. Mais par contre, c'est le nombre qui va faire l'importance du trafic.
Ils saturent le système, si vous voulez. Parce que les mules, quand elles vont atterrir à l'aéroport, nos collègues à Roissy ou à Orly, bah, s'il y a plus d'une dizaine de mules, forcément, on va pas pouvoir tous... les contrôler et les interpeller. Donc il y en a qui vont passer entre les mailles du filet. Voilà. C'est pour ça que nous sommes situés, on va dire, en fin de parcours, nous, sur les réseaux ferroviaires, en fait. Souvent, c'est le point de chute, c'est la fin de parcours. Donc on est là pour voir, en fait, ce qui se passe.
On associe souvent la douane aux frontières, mais toutes les marchandises ne sont pas contrôlées ou toutes les marchandises de fraude ne sont pas arrêtées à la frontière. Donc le fait qu'on soit sur tout le territoire, il y a une logique. C'est-à-dire qu'on contrôle aussi ce qui a réussi à passer les premiers filtres et qui se retrouve sur la route, dans les trains ou à l'intérieur du territoire.
Après, savoir que la mule, ils avalent des ovules, de cocaïne, mais bon, après, ça peut être aussi dans les bagages. Hein. Voilà. La mule, c'est quelqu'un que les réseaux criminels utilisent pour transporter d'un point A à un point B des stupéfiants. Il peut y avoir une valise remplie. Quoi. La mule, comme nous, c'est vrai que c'est un trafic de fourmis. C'est quelqu'un qui fait ça pour vivre, quoi, parce que on profite de la misère humaine.
Voilà, on va regarder votre sac, vous avez des...
C'est vraiment un cake à la banane.
Oui, mais, non, mais madame, le chien ne marque pas les cakes à la banane, il marque les stupéfiants. Donc peut-être que vous...
En...
Bah voilà, bah, on va regarder, c'est tout, c'est un petit contrôle.
Voilà, la valise, c'est à vous.
Oui.
Ouais, rien à déclarer, rien de spécial. Il suffit que vous ayez été en contact avec quelqu'un qui a fumé, vous étiez à une soirée où quelqu'un a fumé, vous avez un habit qui est imbibé, le chien va vous marquer, mais nous on vérifie, hein, c'est tout. Voilà, mais c'est pas le caca à la banane.
J'en sais rien, on sait jamais.
Voilà, voilà.
8 communes sur 10 seraient aujourd'hui concernées par le trafic de drogue, selon la Cour des comptes. Un trafic qui se structure autour des points de deal. Il y en aurait environ 3000 en France, selon l'Office anti-stupéfiants. Un trafic qui pénètre les villes petites et moyennes.
Bonjour. Enchanté.
Enchanté, merci.
On va se mettre là dans le bureau, là.
À Soissons, 28 000 habitants, sous-préfecture de l'Aisne, deux quartiers sont organisés autour de la vente clandestine de stupéfiants. Romain Voisel, commandant divisionnaire, est le chef de cette circonscription de police.
C'est comme on peut voir dans des quartiers de plus grande importance, dans certaines zones urbaines plus importantes aussi, avec des guetteurs, avec des vendeurs, avec des gens qui se relaient, avec des nourrices. Avec une organisation, hein. Quand on en attrape un, il y en a un autre qui prend la place. En fonction des endroits où on intervient, il se replace ailleurs. Un approvisionnement qui est issu, on le sait, hein, de la région parisienne, principalement l'Oise et la Seine-Saint-Denis, avec un quartier qui vit en autonomie par rapport à ça, mais on le sait aussi, hein, qui a des connexions avec la Marne, Reims notamment, et avec divers endroits de l'Aisne. Où les gens viennent se livrer aussi sur Soissons. C'est un endroit qui est quand même connu pour ça, puisque c'est classé difficile, donc c'est déterminé depuis très longtemps. Il y avait par exemple une adresse connue sur Soissons dans un immeuble. Ça faisait plus de 10 ans où les dealers le squattaient. Hein. Ils avaient, on va dire, installé leur business là. Et l'année dernière, on a repris cet endroit par notre action. Et aujourd'hui, c'est un endroit qui avait été complètement déserté et les bailleurs relouent sur cet endroit. Notre action, on va dire, dans les immeubles, etc., est payante, mais du coup, ils sont moins à l'abri, ils sont plus à la vue, ce qui nous arrange, nous, pour travailler. Mais en même temps, on a vu, par exemple, qu'ils ont essayé de s'installer sur, le long d'une école, hein, primaire, avec la sensibilité que ça a. Donc là, on est intervenu très, très rapidement et on a pu déterminer qui était le vendeur. On a récupéré quasi un kilo d'héroïne et divers produits comme la cocaïne. Très peu de résine et d'herbe, pour le coup. Et il a pris 7 ans. On a fait pareil sur un autre quartier il n'y a pas très longtemps. Ils ont pris 3 ans. Là, on en a un qui est reparti en prison juste après cette opération-là, toujours sur le quartier de Presles. Mais à chaque fois, c'est de l'héroïne, cocaïne, mais beaucoup d'héroïne. On travaille beaucoup aussi sur le consommateur. Et dans les opérations qu'on fait, on interpelle beaucoup de consommateurs, déjà, pour pouvoir monter nos dossiers et intervenir. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il n'y a plus vraiment de profil. On a même des surprises. On a eu pas longtemps une femme d'une soixantaine d'années, cadre, etc. et tout. Donc, on a toujours la constante du consommateur classique, mais on constate quand même que ça se diversifie et qu'au niveau des profils, comme on dit actuellement, quand on fait des contrôles, on contrôle vraiment tout le monde parce que il n'y a plus de profil.
On est arrivé, on va faire le petit briefing classique. Donc, l'opération d'aujourd'hui. Donc là, on va retourner sur Bloom. Bloom, on va cibler deux bâtiments.
Le commissariat de Soissons assume, comme partout en France, une politique de harcèlement des points de deal. Une fois par semaine, sur réquisition du procureur de la République, des opérations sont montées. En fonction des circonstances, elles permettent de verbaliser les consommateurs et d'interpeller les vendeurs. Ces opérations sont organisées par le lieutenant Fabien Vivet avec une vingtaine d'effectifs, dont la police municipale. Elles permettent aussi d'occuper la voie publique.
C'est bien. Ah, il y a de la coque. C'est bien, ma fille. Très beau.
C'est vrai, vous vous sentez mieux quand vous me voyez ? Eh bien, ça fait plaisir.
Les criminels de l'État, c'est quand qu'on les arrête, alors ?
C'est un projet
c'est
pour la...
C'est fouiller le pays, là, qui nous laisse en chien comme ça.
C'est un projet pour la semaine prochaine. Alors, faites attention, messieurs, on trouve des stupéfiants autour de vous. Je vous sens en insécurité.
C'est gentil.
Hein ? Alors, je préfère vous le dire.
Ah, voilà. Hein ?
Avec la quelle ?
Donc là, c'est une opération de voie publique classique.
Exactement, c'est la visibilité. On passe un peu partout. C'est pas pour rien, parce qu'on trouve des stupéfiants à gauche et à droite qui sont dissimulés, donc c'est bien. Voilà. Et puis ça passe un message.
Ouais. Non, il n'y a pas question d'interpellation ou quoi que ce soit.
On n'est pas là-dedans. Alors après, s'il y a une opportunité, on va la saisir. Hein, mais voilà, c'est pas l'objectif premier. Là, on veut occuper le terrain. Et ça, c'est important aussi. C'est ce qu'on fait sur la deuxième partie quand ça n'a pas donné sur le premier objectif qu'on s'était fixé.
Vous voyez là, découverte dans le rideau métallique. Donc ils ont vraiment de l'imagination. Hein, c'est... Et ça, si vous n'avez pas le chien. Ah, là par contre, il y a une quantité qui est pas mal.
C'est très beau ce qui est passé.
Qu'est-ce qu'il y a là du coup ?
Donc là, vous avez de la résine, hein, de ce que je vois, conditionnée pour la vente. donc ils vont récupérer et puis ils vendent au détail aux consommateurs qui viennent les voir au niveau du centre commercial. Donc là on n'a pas de personnes porteuses des stupéfiants, donc comme je vous le disais, on va travailler avec la police éthique et scientifique et puis on va voir si ça ressort. Assez régulièrement, on a des noms qui sortent.
Avec les traces ADN.
Exactement. C'est un travail, voilà.
Tu as bien fait de venir.
Moi, je serais même rentré dans la boutique,
là, si il y en a
comme ça dans le
store. On y réfléchit. Mais je sais que vous inquiétez pas.
Pour éviter les arrestations et les poursuites, les membres des réseaux criminels exploitent de plus en plus de mineurs. Selon Europol, l'agence européenne de police criminelle, les missions confiées à des jeunes de 13 à 17 ans en matière de stupéfiants représentent aujourd'hui jusqu'à 10% de l'activité d'un réseau. C'est pourquoi la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, diffuse dans les collectivités une méthode dite « Limits » pour limiter l'entrée des jeunes dans le trafic de stupéfiants. Ce programme est un savant mélange d'actions en direction des jeunes et de leurs parents, ainsi que de la rénovation urbaine. Dans l'agglomération de Creil-Sud-Oise, le collège Émile Lambert est partenaire. Un collège qui ouvre ses portes à la protection judiciaire de la jeunesse pour une exposition interactive baptisée 13-18, questions de justice.
Je passe une autre petite fiche, allez.
Un garçon est connu dans la cité pour vendre de la drogue aux toxicomanes.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette petite fiche ?
Qu'est-ce qu'on peut dire du fait de vendre de la drogue ? Du fait de vendre de la drogue. Est-ce que c'est puni, pas puni
Ça veut dire quoi, toxicomane ?
Alors, quand ils parlent de toxicomane, c'est aux personnes qui vont leur acheter les substances, qui sont accros à des produits stupéfiants et qui vont l'acheter. Est-ce que c'est difficile, si on vous en propose, c'est difficile de refuser ?
Bah non, non, c'est pas difficile. Non.
Vous sentez capable ?
Oui.
Oui.
Est-ce que quelqu'un qui vous demande d'en vendre, est-ce que c'est difficile de refuser ?
Non, mais c'est un peu tentant quand même.
C'est un peu tentant. Pourquoi c'est tentant, Salman ?
Ça dépend de la personne. Parce que la personne, elle peut être en... Des fois, elle n'a pas beaucoup d'argent.
Difficulté financière.
C'est vrai, difficulté financière.
Difficulté à vendre la drogue.
Bah après, il gagne de l'argent, là, cette personne.
Et donc, là derrière, qu'est-ce qui pourrait arriver ?
Devenir accro. Et en vendre et se faire choper par la police.
Et alors ?
D'avoir un délit.
Et alors ?
La prison. Et 3 000 euros.
3 750.
Ah ouais, tu crois ?
Eh bah, le trafic de stupéfiants,
5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Mais si par exemple, un adolescent, il sait dans son quartier qu'il y a des personnes, ils vendent de la drogue. Mm-hmm. Du coup, lui, parce que c'est une personne qui est mature, il va aller dire au commissariat. Du coup, ils partent en prison, ceux qui vendent de la drogue. Mm-hmm. Et après, si lui, il a des problèmes parce qu'il a rapporté et tout, est-ce que vous, le PJJ, je crois, vous allez le protéger ?
Alors, ça sera pas la PJJ, là, du coup, parce que ça sera plus l'aide sociale à l'enfance ou des choses comme ça. Mais oui, effectivement, si t'es en danger, le fait d'avoir dénoncé, tu peux être protégé. De toute façon, t'es mineur, donc...
Oui. Imaginons que t'as vendu des stupéfiants,
ouais.
Et après, ils t'ont attrapé, et après, tu dénonces des noms.
Ouais.
Et la peine, elle serait allégée ou elle reste la même ?
C'est dans les séries américaines qu'on voit ça souvent.
Après, plus la personne coopère au cours de la garde à vue et dans le cadre de l'enquête, évidemment, mieux c'est pour la justice. Par contre, avec certitude...
Alors bonjour, je suis Stéphanie Gadima-Moutombo, je suis la principale du collège de Villars-Saint-Paul, donc le collège Émile Lambert.
Quand on parle avec les élèves, c'est un sujet qui est difficile à aborder. C'est pas facile de dire finalement qu'ils peuvent y être confrontés et d'en parler avec un adulte.
Alors il y a tout le temps, voilà, chez les élèves, mais sur n'importe quel sujet, il y a tout le temps, on rigole un petit peu, c'est rigolo, mais en fait c'est un peu du stress quand ils rigolent, qu'ils osent pas trop dire. Mais je pense qu'il y a quand même des grandes inquiétudes, parce qu'on peut voir des élèves qui nous expliquent que oui, mais si le jeune qui vend de la drogue a besoin d'argent pour faire vivre sa famille, bah oui, il le fait parce qu'il a besoin d'avoir de l'argent. Après, il y a ces questions de est-ce que moi, en tant qu'élève, j'oserais dire non parce que j'ai peur des représailles en disant non, aussi bien en consommation que distribuer. Et nous, on veut en fait leur donner le maximum de choses pour justement pouvoir dire non, se protéger de ça et de dire aussi que nous, les adultes et les parents, on est là pour les écouter et pour répondre à toutes leurs questions. Le but de cette intervention 13-18, c'est de leur montrer qu'est-ce qui peut leur arriver. Aussi bien pénalement, qu'est-ce qui peut arriver à un jeune de 13 à 18 ans s'il y a des consommations ou s'il vend de la drogue.
On parle aussi dans ce programme de développer les compétences psychosociales. Mmh. Est-ce que vous le faites aussi dans ce collège et comment ?
Alors nous, cette année, dans le cadre du même projet, on a mis en place, et avec aussi les instances de l'éducation nationale, on a mis en place le projet Unplug, qui travaille sur deux classes de sixième, parce qu'on a décidé de prendre les plus petits qui arrivent au collège. Et donc, on a deux enseignants qui ont été formés, en fait, une enseignante d'histoire-géo et une CPE, qui ont été formées aux compétences psychosociales, et qui travaillent avec ces deux classes à raison de entre 12 et 18 séances une heure par semaine. Alors, c'est leur petit groupe. C'est vrai que moi, je n'interviens pas dans les échanges parce que les élèves sont entre eux. Et je pense qu'en tant que principale, intervenir sur des séances, c'est compliqué après que les élèves puissent parler. Mais on voit déjà beaucoup de choses apparaître. Il y a énormément, c'est sous forme de jeu. Donc, ils font des affiches, ils discutent entre eux, ils échangent. Et en fait, nous, c'est un petit peu leur donner une valise virtuelle de compétences. Quand ils vont être dans des situations compliquées, c'est pouvoir savoir dire non, en fait. C'est savoir, eux, en tant que jeunes, dire non à ce qu'on leur propose. Et développer les compétences psychosociales, c'est aussi garantir pour nous également tout ce qui est la vie en collectivité. Parce qu'on a beaucoup de choses qui interviennent dans un établissement scolaire. On va vous parler du harcèlement, on va vous parler des drogues, on va vous parler du racket. Et pour nous, c'est important parce que développer les compétences psychosociales, justement, c'est assurer une vie en collectivité plus paisible et un climat scolaire positif.
Je suis Nicolas Price, le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. On a eu trois territoires, deux dans le département du Nord, un également en région parisienne. Donc à Loos en particulier, je cite souvent cet exemple qui a été sans doute le plus probant de notre première phase expérimentale à trois territoires. On a comme ça vu se transformer sur un exemple, encore une fois à taille humaine, je crois que c'est important de le dire, des tours qui répondaient au doux nom de Tours de la Mort, en un espace plus apaisé, et puis surtout ce qu'a permis ce travail de limitation de l'implication des mineurs dans les trafics de stupéfiants, c'est de conduire aussi des actions à l'échelle de l'ensemble de la commune pour prévenir les jeunes, travailler sur le renforcement de leurs compétences psychosociales, travailler à la mise en cohérence de l'ensemble des leviers, qu'ils soient sociaux, éducatifs, judiciaires, pour éviter, autant que faire se peut, l'entrée dans les trafics des plus jeunes. Ça s'est soldé quand même par... franchement, moi, je trouve un certain succès, parce que tout le monde a joué le jeu, la mairie, les services de l'État, les bailleurs sociaux. Les tours ne portent plus ce joli nom. Elles ont été réhabilitées dans le même temps. Les espaces extérieurs, je peux vous dire que quand j'avais visité, on était sous escorte policière et il était impossible d'imaginer qu'un gamin joue au ballon en bas de la tour. Là, maintenant, c'est possible. Des associations de riverains et d'habitants de la tour occupent les pieds d'immeubles dans des locaux qui sont mis à disposition. Il y a une coopération avec les forces de l'ordre pour alerter si les dealers reviennent, se réinstallent dans le coin. Et globalement, on a l'impression que le paysage de la commune s'est un peu amélioré de ce point de vue-là. Ça reste des expériences hyper fragiles. On sait les adversaires qu'on a en face. C'est des gens hyper puissants, qui ont des moyens considérables. Ils sont hyper violents, donc ils peuvent revenir, etc. Donc je ne crie pas victoire.
La MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, tire son budget des sommes confisquées aux trafiquants de stupéfiants par les tribunaux. des sommes gérées par l'AGRASC, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, une agence dirigée par la magistrate Vanessa Perret.
Bonjour.
Bonjour, enchantée, Vanessa Perret.
Concernant le trafic de stupéfiants et l'évolution qu'on a pu constater, nous, du point de vue de l'AGRASC, c'est qu'effectivement, les saisies et les confiscations en matière de trafic de stupéfiants augmentent énormément au gré des années. On s'en rend compte parce que, par exemple, quand l'AGRASC a été créée en 2011, on versait 700 000 euros par an à la mission interministérielle de lutte contre les addictions et le trafic de stupéfiants, la MILDECA, alors que l'année dernière, nous avons versé 50 millions. C'est-à-dire que toutes les confiscations qui ont lieu dans le cadre du trafic de stupéfiants vont aller pour financer cette mission. Et on voit qu'elles augmentent chaque année de manière très importante. 700 000 euros en 2011, environ 20 millions en 2022. Et là, l'année dernière, en 2024, plus de 50 millions d'euros.
Alors, les saisies, elles se font où principalement, les saisies de stupéfiants ?
Alors, les saisies de stupéfiants, vous avez les saisies de la drogue, qui donc ne nous concerne pas, puisque bien évidemment, l'AGRASC ne va pas revendre la drogue. En revanche, nous, ce qui nous intéresse, c'est les biens qui sont saisis et confisqués dans le cadre des procédures de trafic de stupéfiants. Là, il y a énormément de choses qui peuvent être saisies. Ça peut être à la fois un bateau, mais ça peut être aussi de la maroquinerie, des bijoux, la voiture du délinquant. On a possibilité de saisir ce qui peut être acheté avec le produit de l'infraction, ce qui peut être aussi destiné à commettre l'infraction. Donc il y a énormément de biens très diversifiés qui sont saisis dans le cadre du trafic de stupéfiants.
Vous l'avez dit, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits en matière de saisie et de confiscation en France. Mais vous dites aussi on peut faire beaucoup mieux s'il y avait plus d'enquêtes patrimoniales réalisées par les enquêteurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'une enquête patrimoniale? Pourquoi c'est fondamental et pourquoi finalement il n'y en a pas assez de ces enquêtes?
Alors pourquoi une enquête patrimoniale est fondamentale dans les procédures pénales? D'abord, c'est intéressant dans le trafic de stupéfiants, puisque c'est de ça dont on parle, de s'intéresser bien sûr à la saisie du produit. C'est l'essentiel et c'est pour éviter qu'il y ait de la drogue, bien évidemment, qui circule partout en France et à l'étranger. Mais c'est important aussi de faire une enquête patrimoniale, parce que ça veut dire qu'on va regarder le patrimoine du délinquant, le patrimoine du trafiquant de drogue, pour pouvoir voir, avec l'argent de la drogue, ce qu'il a pu investir, ce qu'il a pu gagner et ce qu'il pourrait, le cas échéant, réinjecter. Donc c'est très important de le faire en plus de la saisie du produit. Les services de police et de gendarmerie le font évidemment de plus en plus, mais c'est sûr que ça prend du temps et ça nécessite des moyens, notamment humains, d'enquêteurs spécialisés qui vont davantage se concentrer sur le volet patrimonial et pas seulement sur le volet produit saisi de la drogue. Donc ça nécessite de la compétence, ça nécessite de la spécialisation et ça nécessite des enquêteurs qui ont le temps de faire ce type d'investigation ainsi que des magistrats également.
Quand vous parlez de compétences, de spécialisation pour ce type d'enquête, est-ce que vous avez des exemples pour matérialiser la difficulté de faire ces enquêtes ?
Alors, c'est nécessaire d'avoir des gens qui sont un peu spécialisés parce qu'il y a parfois des montages financiers qui sont un peu compliqués, qui sont à l'étranger. L'argent n'est pas réinvesti directement seulement dans un bar tabac sur un compte bancaire, mais il est réinvesti via parfois des sociétés fictives ou qui n'ont pas de raison vraiment sociale d'exister. Sont investis à l'étranger et donc il faut avoir des enquêteurs persévérants et formés pour pouvoir aller trouver ce type de biens, ce type de montage et identifier les biens qu'on va pouvoir saisir et confisquer.
Face à des arrivées de drogue presque illimitées dont on ne saisit qu'une infime partie, priorité doit être donnée à la lutte contre le blanchiment, estiment les spécialistes de la criminalité organisée comme Christophe Perruot. Ancien juge d'instruction à Marseille, il dirige aujourd'hui l'ONAF, l'Office national antifraude, le service d'enquête des douanes.
Ça marche par séquence aujourd'hui, la criminalité organisée. Il y a des professionnels dans chacune des séquences dont on parle. Les gens qui font de l'auto-blanchiment, ça demeure. Quelqu'un qui va essayer de trouver un moyen lui-même de blanchir son argent. Mais à partir du moment où on parle de sommes considérables, de sommes très importantes, si je n'ai pas des connaissances qui vont bien, je ne sais pas quoi faire. Donc, je vais aller contacter quelqu'un qui sait faire pour moi et je vais payer la prestation. La personne va me dire, qu'est-ce que vous voulez, cher monsieur ? Est-ce que vous voulez que je vous mette ça à disposition, votre argent liquide, là, qui est l'argent qui a été donné par les acheteurs, les consommateurs de drogue, qui sont à l'origine de tout cela aussi, hein. Cet argent en espèces, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Est-ce que vous voulez que je vous ouvre des comptes dans des paradis fiscaux? Est-ce que vous voulez que je vous mette ça à disposition au Maroc, en Colombie? Est-ce que vous voulez avoir ça sur des comptes en crypto auxquels vous pouvez accéder où vous voulez? Ou est-ce que vous voulez ça sous forme d'or à Dubaï? C'est une prestation. Je vous la facture en fonction de la difficulté et des moyens qu'il me sera nécessaire de mettre en œuvre. Je vous facturerai cela entre 3, 4, 5, 10%. Donc voilà, en fait, à partir de ce moment-là, vous avez des vrais professionnels du blanchiment qui réalisent cette prestation, des sortes de banquiers, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, si tout le monde partage cette certitude sur laquelle il faut travailler sur les organisations criminelles en suivant l'argent, en leur saisissant leurs avoirs et en démantelant les circuits de blanchiment, c'est quelque chose d'assez récent. Mais pourquoi ? Parce que historiquement, c'était compliqué, parce qu'on a affaire à des affaires complexes qui sont souvent de longue haleine, avec de la coopération internationale. Enfin, j'ai le souvenir de ces déclarations de mes prédécesseurs, dont le juge Henri Beck, vous savez, qui déplorait l'absence de collaboration des pays. C'est très ancien, et ça, ça marquait des générations. C'est-à-dire qu'on savait que se lancer dans des affaires de blanchiment, c'était initier des enquêtes dont on doutait qu'on en voit la fin. Et dont on pouvait encore douter, peut-être encore davantage, qu'elles permettent de mettre en cause les gens. Ça a changé. Je crois que ça a fondamentalement changé, parce qu'on est convaincu de la nécessité de le faire, mais aujourd'hui, on a des résultats. Notamment parce qu'il y a des dispositions législatives qui ont changé aussi, notamment la présomption de blanchiment. C'est un outil formidable qu'on a en France. Si quelqu'un se trouve sur le territoire national, sans même un franchissement de frontières, et a 100 000 euros dissimulés dans une cache aménagée dans son véhicule... C'est un acte de dissimulation. À partir de là, cet acte de dissimulation, on considère que c'est un acte de dissimulation au sens de la loi, c'est-à-dire qui caractérise une infraction qui s'appelle la présomption de blanchiment. Et donc, ça renverse la charge de la preuve.
Ce grand débat sur le narcotrafic qui est arrivé l'année dernière avec la commission d'enquête, finalement, j'ai le sentiment que les services vont mieux peut-être travailler ensemble, qu'il y aura peut-être moins de chasse gardée en tous actes. C'est quelque chose que vous constatez ?
Alors, moi, je crois que les derniers événements là, auxquels on a assisté, je pense, l'affaire Amra, la DZ Mafia, ont conduit à ce que nos dirigeants, je vais être un peu sévère, mais entendent ce qu'on dit, nous, les magistrats spécialisés, les policiers spécialisés, les gendarmes spécialisés, les douaniers spécialisés. Ça fait 15 ans qu'on répète la même chose. On n'est pas armé pour lutter contre la criminalité organisée en France. On ne s'est pas préparé. Il y a une quantité de dispositions qui aujourd'hui paraissent évidentes à tout le monde que nous, on a portées depuis 15 ans. La professionnalisation des cours d'assises, l'amélioration du statut du repenti. Toutes choses que, vous pouvez nous lire, hein, ça fait 15 ans qu'on écrit là-dessus. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Parce que la menace, elle est réelle. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui va nous permettre de mieux travailler, en tout cas j'espère, à l'image de ce qui s'est fait en matière de terrorisme, de lutte contre le terrorisme. Là, on parle de créer un état-major de la criminalité organisée, où il y aura tous les services de renseignement, de police judiciaire, qui échangeront des informations pour être plus efficaces. C'est une nécessité. C'est une nécessité absolue. Je pense malheureusement, ou je crains, ou j'espère me tromper, mais qu'on n'est qu'au début d'une extrême violence de la part de la criminalité organisée. Au regard des profits considérables générés par ces gens qui ont une capacité de corruption, mais aussi d'acheter des sicaires, des tueurs, qui peuvent vous tuer n'importe qui pour une somme dérisoire. Cette violence qu'on a constatée dans des pays autres que les nôtres, en Amérique du Sud, mais ce qu'on constate maintenant avec la DZ Mafia, des gens qui sont enlevés, torturés, brûlés, qu'on filme, ça fait quelques années qu'on voit ça dans les pays des Balkans, qu'on voit ça un peu en Belgique, ça se rapproche. De penser que, un peu à l'image d'une image de Tchernobyl, ça contournerait les frontières et qu'on sera à l'abri de ça, c'est faux. Si on veut éviter cela, en tout cas, il faut qu'on s'arme davantage. Et cette prise de conscience qu'il y a actuellement, elle est non seulement justifiée, mais elle n'est pas tardive, mais elle est indispensable. Il faut que l'on se protège davantage et qu'on travaille davantage ensemble, comme on l'a fait en matière de terrorisme.
Difficile de distinguer entre les faillons et les caves. Un trait sépare les lâches des braves. Tout le monde veut faire parler la poudre de l'orage dans les yeux. Mes frères sniffent de la foudre, montent sur des affaires de la coke dans le zen. Distribuent des coups de crosse, perdent le contrôle de même. C'est le 21e siècle, l'époque des meurtres crapuleux. De la poudre aux yeux.
Trafic de stupéfiants, la nouvelle donne, un reportage d'Anne Fauquemberg avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour prolonger ce reportage, nous sommes avec Damien Brunet, magistrat spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée, et Dimitri Zoulas à la tête de l'OFAST qui coordonne la lutte anti-stupéfiants. Alors ce trafic de stupéfiants se développe dans un climat, on l'a entendu, de plus en plus violent, avec des actes de torture, de séquestration, des fusillades. Et on entend de plus en plus parler de mafia. Le terme est même revendiqué par certaines organisations comme la DZ Mafia. Est-ce qu'il vous semble approprié? Qui veut répondre, Dimitri Zoulas?
Vous avez indéniablement un climat et un contexte dans lequel nous relevons, statistiquement parlant, en dehors même du climat, une augmentation des infractions les plus graves liées aux rivalités autour des trafics de stupéfiants. Nous observons une augmentation de 35% des homicides ou tentatives d'homicide volontaire en France liés au trafic de stupéfiants, c'est-à-dire environ 400 faits par an en 2024. Mais nous constatons aussi une kyrielle de violences supplémentaires qui va de l'incendie de véhicules ou d'appartements à la jambisation, c'est-à-dire la destruction du genou d'un adversaire potentiel, des extorsions, des défenestrations, etc., etc. Et ça se produit à une échelle si grande qu'on peut considérer maintenant qu'une presque contre-culture de la violence existe autour de cette activité commerciale qui s'est généralisée quasiment en France. Voilà le constat que nous faisons, chiffres à l'appui. Mais il y a des explications à ça, et des explications qui sont rationnelles. C'est moins sociologique qu'il n'y paraît. À partir du moment où un marché est conquis par la cocaïne, ce qui est en cours en France depuis quelques années, les saisies le montrent, une violence supplémentaire accompagne ce produit qui est beaucoup plus rentable que le cannabis, qui historiquement a structuré la criminalité organisée de nos cités et de nos bassins de criminalité. La cocaïne est 20 à 30 fois plus rentable. Vous comprenez donc que l'intérêt des gens qui font ce trafic est démultiplié et la violence accompagne cette espérance de gain.
Damien Brunet, vous recourez à quel terme, vous, pour qualifier ces trafics aujourd'hui?
En fait, il y a tout un fantasme un peu italien de la mafia, hein, tel qu'on la connaît dans les représentations cinématographiques, mais plus généralement, on a une connaissance et on a une définition de la mafia. Elle a été donnée par le code pénal italien et par l'action des autorités judiciaires italiennes, qui était une définition finalement très italo-centré par la force des choses, mais je dois dire que, par exemple, les confraternités nigérianes, qui sont des structures, qui sont des groupes criminels organisés de traite des êtres humains, de trafic d'armes, de proxénétisme et aussi accessoirement de trafic de produits stupéfiants, sont considérées aujourd'hui par nos homologues italiens comme des mafias. C'est donc dire que la notion, en réalité, elle est pas strictement italienne. Alors, il y a un certain nombre de critères sur lesquels les universitaires parfois nourrissent des débats pour dire bah alors il y a pas tous les critères, donc c'est pas exactement une mafia en France. En réalité, il y a une catégorie générique qui est la criminalité organisée, et fondamentalement, qu'on l'appelle mafia, qu'on l'appelle gang ou qu'on l'appelle encore sous une autre appellation, elle a les mêmes ressorts, la violence. Elle a les mêmes finalités, le profit totalement décomplexé, et elle a cette structure autour des personnes sur fond de terreur, sur fond de silence, pour faire en sorte que les mêmes ressorts et les mêmes finalités puissent se marier en quelque sorte et assurer le développement de ces structures. Donc on peut retenir le terme de mafia. Aujourd'hui, d'après notre connaissance, d'après la connaissance que nous avons, cette connaissance, je pense, un petit peu insuffisante pour faire des parallèles avec Cosa Nostra, la 'Ndrangheta ou autre. Mais le fond du problème, c'est qu'il y a de la criminalité organisée, qu'il va falloir y apporter quelques coups sévères.
Voilà, on est face à une menace très structurée, très puissante.
Peut-être on peut en profiter pour ajouter que l'action de la police judiciaire et de la justice est d'empêcher la constitution de mafia au sens propre du terme en France, c'est-à-dire d'organisation tentaculaire, disciplinée, avec des départements et un chef à qui tout le monde obéit. Ce n'est pas le cas de la DZ Mafia, qui invoque le titre de mafia, mais enfin c'est plutôt du commercial qu'ils font. Ils n'en sont pas là. Toutefois, ils sont une association de groupes criminels organisés déjà présents dans la cité marseillaise, qui ont trouvé des accords entre eux pour grossir et leur profit et leur expansion territoriale. Si on ne l'arrêtait pas, ce que nous sommes en train de faire, on peut imaginer que dans plusieurs dizaines d'années, parce que ça prend beaucoup de temps de créer un contre-pouvoir qui s'appelle mafia, on en arriverait là. Donc l'action quotidienne des services et de la justice, c'est d'identifier ces gens-là avant même qu'ils puissent avoir l'idée ou la puissance organisationnelle d'une mafia.
Alors un outil majeur, c'était souligné dans le reportage, c'est la lutte contre le blanchiment. Et aujourd'hui, Dimitri Zoulas, on ne fait pas encore systématiquement d'enquête patrimoniale. Pour vous, c'est une priorité?
D'abord, le reportage est de ce point de vue très bien réalisé parce que les personnes interrogées ont bien relevé qu'il nous manquait quelques moyens pour pouvoir le systématiser. Vous savez, nous estimons qu'une centaine de grands trafiquants composent le haut du spectre de ce domaine, des trafics de stupéfiants. Une centaine sont les responsables des grands acheminements massifs. La plupart, d'ailleurs, le font depuis l'étranger. Nous estimons aussi qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui constituent ce qu'on appelle le spectre moyen, le moyen du spectre. Ce sont les semi-grossistes. Un semi-grossiste peut vous amener 250 kilos de cocaïne dans une cité et le subdiviser ensuite. Ces gens-là font d'énormes profits. Vous avez enfin, dans la structuration criminelle qu'on observe aujourd'hui, un bas du spectre qui est malheureusement le plus visible parce qu'il est accompagné de la cohorte de violence dont nous parlions tout à l'heure, dont la lecture d'ailleurs écrase en fait la violence du bas du spectre, celui qui est lié aux rivalités territoriales, et écrase la lecture de cette structuration dont je vous parle. Donc, oubliez le bas du spectre très violent dont nous avons parlé déjà, mais ce moyen du spectre qui est en France, qui a des intérêts territoriaux, qui peut pas trop s'expatrier parce qu'ils font le gros business en réalité, mériterait que nous diligentions, sous la direction des parquets, quasiment de tous les parquets de France, des milliers d'enquêtes criminelles doublées d'enquêtes patrimoniales, c'est-à-dire de recherche de comptes bancaires, d'avoirs, pour établir aussi les relations entre le trafic de stupéfiants et ces avoirs-là. C'est des choses qui se démontrent lentement. Et il nous manque forcément des officiers de police judiciaire, des agents, quelle que soit l'administration d'ailleurs, pour pouvoir le faire à une si grande échelle.
Et comment on rénove aussi peut-être les pratiques, les façons de travailler pour aussi, sans moyens supplémentaires, c'est compliqué en ce moment.
Donc nous le faisons par différentes approches. D'abord, nous classons ces personnages par région et à l'échelle nationale, selon une typologie des plus actifs, des plus dangereux. Et dans ce cas, nous appliquons une méthode qu'on appelle la méthode globale, c'est-à-dire que nous mettons en œuvre tous les moyens d'enquête, y compris les moyens financiers, avec des réussites quand même. 110 millions ont été saisis l'année dernière par l'action de la police judiciaire liée au trafic de stupéfiants. Ça augmente chaque année. Donc un effort est fait là. Nous formons de plus en plus de gens pour pouvoir le faire. Et puis vous avez des approches tactiquement différentes pour aller trouver les lieux où sont ces fonds-là, aller les rechercher à l'étranger. Vous voyez, des fois, il y a des embellis. Donc, c'est pas seulement une question de moyens, c'est une question de compréhension de ce qu'ils font, de trouver, par exemple, les collecteurs, de trouver les moyens qu'ils ont de blanchir. Donc, une affaire connue sous le nom de Dark Bank a permis de réaliser au tout début de l'année 2025 et après plusieurs années d'enquête, de démontrer le blanchiment en 18 mois de 300 millions d'euros, dont notamment liés au trafic de stupéfiants, en allant démanteler un système de blanchiment par des cryptos. Vous voyez, donc on a quand même des embellis parfois. C'est pas une question uniquement de moyens, c'est une question de connaissance des réseaux de blanchiment.
De connaissances et de coopération aussi, coopération européenne, coopération internationale, j'imagine.
Absolument, absolument. Les flux financiers sont encore plus rapides que les flux de stupéfiants, qui sont déjà rapides. Et donc, nous avons un certain nombre de cadres en Europe qui facilitent ça. Nous les créons en dehors de l'Europe. Avec certains pays, ça marche très bien. Avec d'autres, il est de notoriété publique que nous faisons d'ailleurs des efforts des deux côtés pour pouvoir trouver une manière de travailler ensemble. C'est le cas de l'Émirat de Dubaï, avec qui nous sommes en relation autant au niveau policier qu'au niveau de la justice et même politique, pour trouver la bonne façon d'identifier des patrimoines très conséquents qui ont été constitués depuis des dizaines d'années et de trouver la façon, en droit local, de pouvoir les identifier d'abord et les saisir ensuite.
voulais en fait pour revenir, c'est que sur l'enquête patrimoniale, on se plaint parfois que comme elle est accessoire, elle est un petit peu tardive. C'est ce qu'on entendait dans la présentation que la directrice générale de la Grâce que faisait. Mais la culture de la police judiciaire depuis Clémenceau, c'est de partir du criminel pour aller au crime et non l'inverse. Et donc l'une des illustrations, et le dossier d'Arcbank en est une significative, c'est de effectivement de connaître son réseau, de connaître l'organisation criminelle et sa structuration pour commencer à investiguer sur celle-ci et voir alors par le blanchiment ce que sont finalement les infractions premières qui ont été blanchies. Et donc c'est pas de penser en trafic de produits stupéfiants pour conduire in fine une enquête patrimoniale, c'est au contraire de traquer des méthodes de blanchiment qui révéleront certes du trafic de produits stupéfiants, mais qui peuvent révéler, et là-dessus on peut faire confiance à l'ingéniosité criminelle, tout un tas d'autres infractions extrêmement rémunératrices également.
Vous avez aussi une concentration désormais acceptée par tous les partenaires, les services de police qui existent, de gendarmerie, de douane et autres, pour mettre dans des pots communs tous les renseignements qui permettent d'aller plus vite. Et nous avons, sur la question du blanchiment que vous évoquez, une task force. Bon, c'est un terminologie anglaise, mais donc un groupe de travail permanent qui est tenu à la DNPJ avec des financiers où nous rassemblons tous les éléments liés au trafic, au blanchiment de trafic de stupéfiants. On l'appelle Task Force Narco-Blanchiment.
Alors, puisque les trafiquants sont des businessmen, hein, on aura compris, il faut les frapper au portefeuille, d'où la logique de confiscation de biens. J'avais une petite question pour vous, Damien Brunet, sur la peine de confiscation. On peut confisquer et vendre les biens d'une personne qui n'a pas encore été jugée ?
Oui, c'est un dispositif qui est en réalité un petit peu ancien et dont l'utilisation croît régulièrement et elle devra croître, je pense, encore dans les années à venir. C'est un système qu'on appelle d'aliénation avant jugement. Donc, ce n'est pas une confiscation qui est une peine, hein, à propos. Proprement parler, mais donc l'objet saisi, s'il présente un risque de dévaluation, peut être vendu. Le produit de la vente consigné sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations, il est donc rémunéré au taux d'intérêt légal et à l'issue de la procédure, si la personne est innocentée ou s'il est établi que le bien aurait dû lui être restitué, alors la personne ne bénéficie plus de sa voiture qui a passé 5 ans dans un garage tout le temps de la procédure, mais de l'équivalent en numéraire de la valeur à la vente de sa voiture. Il y a deux avantages. Le premier, c'est rapidement de convertir des saisies pour que ce ne soit pas simplement des mesures provisoires, mais qu'elles soient concrètement, le cas échéant d'ailleurs, affectées aux services d'enquête. Et s'ils en ont besoin, je prends l'exemple des voitures, on peut aussi prendre l'exemple du matériel informatique, ce sont des matériels au sens large qui se dévaluent très vite. Et puis l'autre avantage de ce dispositif, c'est une maîtrise des frais de justice, parce que le gardiennage des objets saisis peut revenir extrêmement cher.
On parle d'argent, Dimitri Zoulas, les criminels, les narcotrafiquants disposent quand même de moyens considérables aujourd'hui. Le risque de corruption est très grand, on le voit dans les ports avec les dockers, également dans vos administrations. On sait que vous avez des budgets limités, comment lutter ?
Nous documentons ce phénomène qui a été sous-estimé longtemps en France. On l'a considéré comme ponctuel. On constate quand même une forme de systématicité des tentatives de corruption des professions qui intéressent les narco-bandits, les narcotrafiquants et les autres criminels d'ailleurs. C'est des gens qui peuvent donner accès à des passages frontières, c'est des gens qui peuvent donner accès à des gares, des bagages, c'est des gens qui peuvent donner accès à des informations bancaires. Et il y a beaucoup de professions du privé, des métiers du droit, et vous avez aussi des agents publics qui peuvent être visés. Maintenant, les statistiques montrent quand même si elles sont beaucoup mieux documentées, que sur 4 ou 5 dernières années, l'étude montre qu'enfin, vous avez quelques dizaines de cas dans la fonction publique seulement. Donc, il ne faut pas quand même exagérer le phénomène. En revanche, ce dont je peux attester, c'est que les trafiquants d'un certain niveau qui sont placés en garde à vue, ça et là, sur le territoire national dans le cadre de nos enquêtes, essayent systématiquement de nous faire des propositions à nos agents, Ils essayent de le faire hors garde à vue, ils essayent de le faire systématiquement parce que, comme vous le dites très bien, ils ont accumulé des richesses considérables.
Ils ont des arguments.
Ils payent leurs avocats en liquide, ils payent qui ils veulent pourvu qu'ils aient le moindre problème possible. Donc, nous mettons en œuvre un certain nombre de contrôles internes et nous avons lancé des travaux sous l'impulsion d'ailleurs du ministre de l'Intérieur pour monter le niveau de sécurité des agents qui sont en première ligne contre la criminalité organisée, de la même façon que les agents qui sont en première ligne contre le terrorisme, ceux de la DGSI, bénéficient d'habilitations spécifiques ad hoc. Donc nous allons monter petit à petit tous nos agents qui sont sur le front à un niveau d'habilitation qui permet et de les contrôler mieux et de les garantir eux-mêmes. Et d'autres mécanismes internes que je ne peux pas tout de suite révéler, mais c'est quelque chose qui est pris en compte parce que nous professionnalisons la lutte contre la criminalité organisée, maintenant qu'il est très clair qu'il s'agit d'une menace égale, asymétrique et égale à celle que le terrorisme fait peser sur la sécurité de nos concitoyens.
Il y a la corruption et les menaces aussi à l'encontre d'agents pénitentiaires ou d'avocats, de magistrats. Damien Brunet, là-dessus.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut une réponse des institutions judiciaires, policières, comme expliquait très bien Dimitri Zoulas. Il faut sortir du schéma ou du cliché, peut-être, du fonctionnaire de police, du magistrat sans scrupules, qui accepte un petit billet pour rendre un service. Ça peut être ça, la corruption. Ça peut être beaucoup plus pernicieux, ça peut être beaucoup moins visible comme ça, et puis ça peut être beaucoup plus contraint également par l'agent corrompu, par des pressions. Alors, des pressions, on en a eu malheureusement une illustration flagrante ces dernières semaines extrêmement violente, mais vous pouvez avoir des pressions beaucoup plus insidieuses d'une personne que vous rencontrez devant l'école de votre enfant à la rentrée des classes. Vous voyez, ce sont ce genre de situation-là qu'il faut prévenir et en fait ça s'apprend et les institutions, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour le secteur privé. Je rappelle que dans le prolongement de la loi Sapin 2, l'Agence française anticorruption a été créée. Elle établit des protocoles, elle fournit des recommandations à un certain nombre d'acteurs économiques français exposés. Et en réalité, les enjeux et les mécaniques sont un petit peu similaires dans notre matière.
Dimitri Zoulas, concernant les consommateurs, on a l'impression que le répressif n'est pas très efficace. Sanctionner immédiatement les consommateurs avec le recours plus intensif aux amendes forfaitaires délictuelles, est-ce que ça marche vraiment? Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui nécessaire, utile?
Les amendes forfaitaires délictuelles font partie des indicateurs qui ont été choisis pour ce qu'on appelle, excusez-moi parce que c'est technique, la politique prioritaire du gouvernement. Il faut quand même avoir un résultat de cette politique et effectivement, il y en a de plus en plus qui sont dressés. Et si vous vous rappelez, c'était pour éviter de les placer en garde à vue, pour aboutir à des non-condamnations. Donc c'est quand même beaucoup mieux du point de vue du traitement pénal. Nous savons qu'une partie n'est pas payée par les personnes verbalisées, mais enfin, si vous n'avez pas l'amende forfaitaire délictuelle, c'est comme si vous légalisez l'usage de drogue, d'ailleurs multiple dans la rue, et je ne suis pas sûr que nos autorités et nos citoyens sont prêts à prendre cette décision. Donc l'usager lui-même, c'est pas celui qu'on recherche en premier lieu pour le punir, mais il ne faut pas exagérer quand même. L'ivresse publique manifeste est punie, et puis dans les villes, vous n'avez pas le droit de circuler sans t-shirt non plus, donc pas non plus d'utiliser des drogues. Vous voyez, maintenant, on va interdire la cigarette dans les espaces publics et les parcs, donc la drogue, c'est pas tout de suite.
Et il n'est pas interdit de responsabiliser, évidemment, les gens en leur rappelant le prix payé par... Oui, Damien Brunet.
Et on peut préciser que dans les systèmes juridiques où il a été fait le choix d'être beaucoup plus coulant avec les utilisateurs, les usagers de produits stupéfiants, et ben en réalité, on a eu la même vague, voire pire, déferlante de criminalité organisée. Donc il n'y a pas de corrélation si simple que celle parfois qu'on voudrait présenter entre la légalisation d'une consommation et la présence des mafias ou autres. La mocro-mafia, elle naît entre la Belgique et les Pays-Bas, qui sont pourtant des pays qui ont une politique très favorable à l'usage de produits stupéfiants. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de corrélation.
Merci Damien Brunet, merci Dimitri Zoulas. Merci. Le grand reportage de cette semaine, Trafic de stupéfiants, la nouvelle donne, était signé Anne Fauquemberg. Réalisation Annie Bro, à la technique Antonini Thomasson, documentation Corinne Chauvel. Pour réécouter et partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.